France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Les carnets dans tous les départements continuent, dans toutes les régions de France, pour ce dernier mois de l'année. Première étape aujourd'hui dans les Landes, avec une association écologique de Mimizan qui non seulement nettoie les plages, mais aussi recycle les déchets et organise des balades ludiques et pédagogiques. Nous irons ensuite en Normandie rejoindre Sylvie Le Calvez, directrice de publication du magazine Village, pour un dossier qui part en ce moment dans le trimestriel de l'hiver 2020-2021 autour de la revitalisation des centres-bourgs.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Christophe Dubreuil, bonjour.
Bonjour.
Bravo pour l'association, attention, j'ouvre les guillemets, Big Up Cycling. Vous êtes cofondateur de cette association à Mimizan dans les Landes. Et là, on parle avec vous de réduction des déchets. Et Dieu sait s'ils sont nombreux sur les plages.
Malheureusement, oui, ils sont très nombreux. C'est d'ailleurs quasiment exponentiel, puisqu'il y a une étude qui dit que si ça continue, on parle de 29 millions de tonnes en 2040. Si on les étendait sur la surface de notre pays, ça couvrirait les trois quarts de la France. Vous imaginez donc avoir les trois quarts de la France couverts de plastique, mais complètement. C'est-à-dire qu'on ne voit plus l'herbe, on ne voit plus les routes, on ne voit plus rien.
Ouais.
Donc ce sont des chiffres alarmants qui peuvent évidemment paraître un peu virtuels, mais c'est la réalité qu'on a malheureusement sur les plages, et pas seulement sur les plages des Landes. Nous, on a décidé de faire ça en fait dans les Landes, parce que c'est les plages françaises qui sont le plus désertes. Hein. Il y a 104 kilomètres de plage avec évidemment très peu de stations balnéaires, vu que ce sont des zones d'exploitation forestière. Donc on a l'océan, la plage, la dune, la forêt. Donc pour y accéder, c'est soit par des chemins forestiers, et encore il faut avoir des autorisations de l'ONF. Ou nous, ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on y accède avec des fat bikes électriques. Donc ce sont des vélos avec des grosses roues qui laissent une empreinte minimum sur la plage. L'idée, c'est que nous, on n'est pas du tout des éboueurs de la plage. Ce qu'on essaye de faire, c'est de sensibiliser. Sachant que 80% des déchets qui se retrouvent sur la plage viennent de la terre.
Oui.
Donc ça veut dire qu'il faut sensibiliser les gens qui sont en priorité à terre, c'est-à-dire de trier ses déchets, de ne pas jeter son papier de bonbon, sa cigarette, etc. etc., etc. Oui. Et puis aussi à l'adresse des plus grandes industries, il faut qu'on arrête de concevoir des objets en plastique avec du plastique fragmentable comme du polystyrène expansé ou des microbilles en plastique.
Ouais.
Les microbilles en plastique, nous, c'est ce qu'on appelle les larmes de sirène. Hein, c'est ce qui sert à fabriquer le plastique, et il y en a des milliers et des milliers sur la plage. Le problème, c'est que au gré des marées, eh bien, ces microplastiques repartent à l'eau et les poissons mangent ça. Voilà.
Et en réalité, effectivement, j'insiste sur ce que vous venez de dire, 80% des déchets qu'on trouve sur les plages proviennent de la terre et seulement 20% de la mer. Et on oublie une chose, c'est que très souvent on utilise des engins motorisés avec des remorques pour récupérer les déchets, mais en même temps on laboure les plages.
C'est ça. Le ramassage mécanique, c'est bien, mais c'est un peu, c'est un sparadrap sur une jambe de bois, parce que ça, entre guillemets, ça défonce la plage.
Mmh.
Alors certes, ça ramasse des choses, mais le problème, c'est que quand il y a des déchets plastiques qui arrivent sur les plages, on ne sait pas combien de temps ils ont passé dans la mer. Ça peut être 10, 15, 20 ans. Et quand vous prenez un bidon en plastique, que vous le ramassez, immédiatement, même en le prenant à la main, il devient des fragments de plastique, mais c'est instantané.
Mmh.
Et donc ça, après, ça va dans les remorques des tracteurs qui font le ramassage mécanique. Et ça repasse dans les interstices de cette remorque et ça retourne sur la plage.
Mmh.
Bon, alors, je dénonce pas plus que ça, parce qu'on a tous le même but, que ce soit à Mimizan ou ailleurs, c'est que nos plages soient le plus propres possible. Et on travaille avec eux, c'est-à-dire que là, ils sont en train de développer une nouvelle machine, justement, qui sera en place à partir d'avril 2021. Mais ce qui n'empêche qu'il reste aussi des empreintes avec les roues des tracteurs. Sachant que, en fait, sur les plages se crée une croûte. Avec donc la nuit, avec l'humidité, se crée une croûte, et quand la marée arrive, en fait elle glisse sur cette croûte, donc ça veut dire qu'il n'y a absolument pas de mouvement de sable. En revanche, avec les traces des gros pneus de tracteurs, eh bien c'est sur des kilomètres et des kilomètres, l'eau s'infiltre et ça fait glisser la dune. Le problème, il est là, et puis quand on passe avec les tracteurs, ça crée aussi des problèmes par rapport à l'écosystème de la dune. Voilà. Donc, mais nous, notre particularité, c'est ce qu'on fait, c'est unique au monde, c'est qu'on est en cercle fermés. C'est-à-dire qu'on emmène donc avec ces fat bikes électriques, on a des partenaires, on a un partenaire français qui s'appelle Biclou, qui a Perros-Guirec, qui nous a fait des tarifs préférentiels sur les vélos, qui nous en prête également à l'année. On a une grosse aide de la part de la mairie de Mimizan, qui est aussi évidemment très contente que des gens bénévoles nettoient la plage. Et puis on a tout un tas de partenaires locaux, le centre Leclerc, le casino local qui s'appelle le Stelcia, qui nous ont donné des fonds pour acheter des vélos, parce qu'on est, encore une fois, on est tous bénévoles. Donc en fait, avec ces vélos, on emmène donc les gens en balade. C'est une balade qui fait 3h30. Évidemment, il y a déjà le kiff de découvrir la plage déserte des Landes, qui est vraiment fantastique. Et donc là, en fait, on s'arrête et on fait un quiz, 7-8 questions. On a une famille ou des amis, etc. On met un enjeu. Bah, celui qui perd, il ira chercher les chocolatines le matin. Les pains au chocolat, pardon. Celui qui perd fera la vaisselle ou, je sais pas, fera le ménage, etc.
Christophe.
Et donc, on fait passer des chiffres importants par rapport à la pollution via quelque chose de ludique. Et après, j'en aurais terminé. Et après, pendant 45 minutes à 1 heure, on fait de la collecte de déchets. Les déchets, on les ramène. Certains sont gardés. Avec ça, on fait de l'upcycling. C'est-à-dire qu'on fait de la transformation de déchets avec des objets de déco, des œuvres d'art, entre guillemets. Et aussi, on fait beaucoup d'ateliers durant l'année avec les enfants.
L'adresse voilà. du site est bigupcycling.org. L'adresse qui va s'afficher à nos pages. Exactement. Merci, Christophe.
Merci à vous.
France Inter, carnet de campagne.
On dit aussi bien jardin thérapeutique qu'hortithérapie, parfois on parle d'écothérapie. Plus simplement, il est question de jardin de santé ou de jardin de soins. Ceci se multiplie en France depuis quelques années, au point qu'une fédération française, Jardin Nature et Santé, a vu le jour en 2017. Cette fédération, qui tisse des liens entre chaque lieu, milite pour une formation qui n'est encore que, pour l'instant, sporadique et qui ne débouche sur aucun diplôme ou certification. On espère que ça va changer, vu la plénitude de ces lieux. Des journées ont été créées pour réunir des passionnés, à l'origine au centre hospitalier Théophile Roussel à Montesson dans les Yvelines, qui est maintenant le siège de la fédération. Romane, correspondante des carnets, jeune passionnée par l'hortithérapie depuis une dizaine d'années, elle l'a découvert ça au lycée, nous confie dans son courrier qu'elle se prépare à réaliser un tour de France à vélo électrique des jardins à visée thérapeutique au printemps 2021. En prévision de cette aventure, elle a créé un site d'information baptisé les jardins des mots passants, M-A-U-X. C'était bien vu, des mots passants, afin de faire connaître au plus grand public les principes des jardins de santé. Son projet est évidemment plus tard d'édifier, de créer, faire sortir de terre un vrai jardin. Pour l'instant, elle a un autre projet en tête qu'elle a intitulé « Les jardins des mots passants prennent la poudre d'escampette ». Ce programme va s'appuyer sur une chaîne YouTube composée de vidéos qu'elle va réaliser à chaque étape dans les jardins visités. Alors, il y a une page Facebook, le Jardin des mots passants. La Fédération des Françaises des Jardins Nature et Santé a aussi un site dont vous allez trouver le lien à nos pages d'émission. Et je signale que, évidemment, intéressé par cette démarche de Romane, nous prévoyons de l'appeler dans les semaines prochaines ou les jours prochains. Pour l'instant, nous appelons Sylvie Le Calvez qui est en ligne avec nous. Bonjour Sylvie.
Bonjour Philippe.
Sylvie, directrice de publication du magazine Village avec un nouveau numéro. C'est le numéro de l'hiver qui, pour l'instant, est un peu doux. Ça va peut-être se rafraîchir. Et on s'intéresse aujourd'hui à un dossier central que palpite le cœur des villages. Comment revitaliser le cœur des villages? Il y a différents exemples. Étonnant, celui d'Orbec, pour commencer, dans le Calvados, à 20 km environ de Lisieux, avec une nouvelle vision de l'aménagement. Orbec, c'est 2086 habitants, et l'engagement sur la revitalisation jusqu'en 2024 est d'une facture de 13 millions d'euros.
Oui, c'est un village Orbec qui perdait 5% de sa population chaque année, ce qui était énorme. Et le maire s'est dit, mais il faut qu'on se sorte de ce cercle complètement vicieux où effectivement, moins il y a de monde, moins il y a de commerce, moins il y a de commerce, moins il y a de monde, et relancer notre économie de proximité. Et il a répondu à un appel à manifestation d'intérêt de l'État qui lui a permis d'obtenir une grande part de ce financement. Et il a décidé de faire un village quasi piétonnier, ou en tout cas que la priorité soit au piétonnier. piétons et de faire d'énormes travaux pour agrandir les trottoirs, agrandir les terrasses, doubler la surface des restaurants pour qu'ils puissent avoir plus de couverts, etc. Et c'est incroyable parce que depuis cette opération qui vient de commencer, hein, ça fait en gros 2-3 ans, oui. Évidemment pendant les travaux, chute du chiffre d'affaires, mais après les travaux, les commerçants ont gagné jusqu'à 20% de chiffre d'affaires et 10 nouveaux commerçants se sont installés, ce qui était inespéré hein, pour le village.
Ouais, le montant est phénoménal quand même.
Le montant est phénoménal, mais c'est vrai qu'il faut faire venir la fibre, il faut refaire les réseaux, enfouir des réseaux. Dès que c'est du gros œuf, de l'équipement, c'est très lourd. Et puis en plus, ils en ont profité pour acheter l'ancien hôpital, par exemple en centre-bourg, pour y mettre l'école de musique, la crèche, le réseau d'assistance maternelle. Tout ça, c'est en cours, donc ce sont des projets d'investissement très lourds, forcément risqués, mais déjà, il y a des premiers effets positifs. Et puis, avec ce qui se passe en ce moment, on voit tout le sens de remettre au cœur des villages une économie vraiment de proximité avec des commerces de qualité.
Oui. Alors, parfois, il faut aussi, dans la revitalisation, pour éviter, hein, c'est une solution au problème de mobilité et d'étalement urbain, c'est d'avoir un droit de préemption de maisons qui ne sont plus habitées. Le droit de préemption de la part de la commune, c'est possible, mais là aussi, ça a un coût.
Oui, c'est ça, il faut acquérir des maisons au juste prix, hein, ou des grandes bâtisses inhabitées, ou des vieilles granges, et puis après, tout refaire, hein, pour en faire soit des logements pour seniors, des logements pour jeunes, des activités commerciales. Donc effectivement, tout ça est fort coûteux, et en plus, il faut après que la commune elle, le mette à disposition pour des familles ou pour des commerçants à un coût acceptable. Dès que la mairie veut faire des loyers trop chers, ça marche plus. Donc il faut qu'il y ait un équilibre financier pour les commerçants ou pour les familles qui s'installent. Donc c'est vrai que c'est un investissement, mais sur le long terme, en termes de qualité de vie aussi, hein, d'esthétisme du bourg qui aujourd'hui est une demande de la part des gens qui veulent vivre là en disant « Ah, c'est joli chez nous », se réancrer, être content de vivre là, avoir une appartenance à un lieu, c'est vraiment important et beaucoup de villages en ce moment se posent ces questions, du plus petit 500 habitants à des chefs-lieux de canton pour essayer de faire revivre ce centre-bourg. Les grandes surfaces sont complètement détruites, souvent la vie dans les centres-bourgs et tous les services sont partis en périphérie, puis après les lotissements. Et donc effectivement, il y a un enjeu fort à faire revivre tous les cœurs de villages, de bourgs, de petites villes.
Il y a un exemple intéressant aussi dans les solutions. Vous le mentionnez dans le Tarn, à Castelnau de Levis, alors je ne sais pas si on dit Levis ou Levis, ce sont les boutiques à l'essai.
Oui, c'est-à-dire que ça permet effectivement d'essayer son activité pendant un temps pour lutter contre la vacance commerciale, parce que ce sont des boutiques qui étaient vides. Et puis, il y a une fédération hein, qui s'appelle les boutiques à l'essai. Et ça permet à un porteur de projet de tester son activité commerciale pendant 6 mois, de limiter les risques. Et puis, il n'a pas de bail, il n'a pas d'engagement de longue durée. Il bénéficie de prêts avantageux, là aussi d'un loyer faible, hein, souvent à moitié prix hein, par rapport à ce qui se pratique. Et puis, une centaine de communes hein, qui ont déjà fait ce système, mis en place ce système-là, avec 82% des boutiques à l'essai qui sont devenues pérennes en fait. Donc oui. Ça permet, un peu comme les espèces tests agricoles, de voir si on est fait pour ça, si ça peut marcher, s'il y a un potentiel dans le village.
Il y a un site, hein, c'est maboutiquealessai.fr, ça va intéresser beaucoup de communes, maboutiquealessai.fr. Et vous prévoyez dans quelques jours, le 7 décembre, un podcast sur le sujet au nom de Retoucher Terre.
Oui, tout à fait. À chaque fois maintenant qu'on fait une enquête, un gros dossier, là, il y avait 3 journalistes, hein, effectivement, Stéphane Perrault, Frédéric Ville et puis Axel Puig qui ont fait cette enquête, de poursuivre en interviewant à l'oral, effectivement, des porteurs de projets qui se sont installés dans un centre-bourg pour qu'ils nous disent comment ils ont fait, comment ils ont réussi ce challenge et comment ça se passe.
Bravo, que palpite le cœur des villages, le nouveau dossier du dernier numéro du magazine Village. Merci Sylvie.
Merci Philippe, à bientôt.
Il est tout juste 12h45 sur France Inter cette semaine et la semaine prochaine, on va suivre Nicolas Stoufflet avec des candidats depuis la Maison de la Radio. Bonjour Nicolas.
Bonjour Philippe Bertrand.
Alors qu'apprenais-je?
Qu'est-ce qui se passe?
Vous êtes natif. Non, c'est incroyable, vous êtes natif de Champagnère, vous, Nicolas Stoufflet.
Alors c'est vrai que imiter VGE avec le masque, c'est quand même une super performance. Oui, c'est vrai que je suis né à Chamalières. une ville de toute proche de Clermont-Ferrand.
Oh, bah, j'ai bien connu.
Et oui, dont Valéry Giscard d'Estaing a été le maire. On se souvient tous et toutes des images de VGE jouant de l'accordéon dans les jardins de l'hôtel de ville avec Daniel Gilbert.
Ouais, c'est vrai.
Bonne journée, Philippe.
Bonne
à
journée.
Demain.